Vous écoutez On lit pour vous.
Les frais cachés du handicap. Un texte de Marisol Saint-Onge, paru le 21 septembre 2025 dans La Voix de l'Est. Être en situation de handicap n'est jamais un contrat auquel on s'engage de son plein gré. Alors, même s'il y avait eu des petits caractères à lire avant de signer, cela n'aurait rien changé. Reste que le handicap, ça implique de toujours devoir jongler avec des dépenses que les autres n'ont pas à budgéter. On le sait, tout a augmenté. Il semble que depuis la pandémie de COVID-19, les prix à la consommation n'ont cessé de monter. Les thèmes de la guerre, de l'inflation et des tarifs tournent en boucle sur nos chaînes d'information. Même le mot redouté de la récession a été plusieurs fois prononcé, n'annonçant rien de mieux dans un avenir rapproché. Lorsqu'en plus du coût de la vie qui grimpe, il faut ajouter de l'équipement adapté et de nombreux déplacements simplement pour conserver son autonomie, on a l'impression de toujours avancer avec un fardeau à traîner. Dernièrement, j'ai eu à changer les batteries de mon fauteuil roulant pourtant presque neuf. Mon petit électrique, qui répond merveilleusement bien à tous mes besoins depuis des années, a brisé et j'ai dû le remplacer par un autre modèle vendu comme un équivalent. Mais puisqu'aucun des deux n'est sur la liste des fauteuils autorisés par le gouvernement, le remplacement des batteries est à mes frais. Bien évidemment, j'aurais aimé mieux pouvoir m'acheter un petit luxe avec ce même montant. De beaux souliers, de nouveaux vêtements, un repas au restaurant. Mais priorité oblige, je suis arrivé au bout des batteries, et ce, bien avant qu'avec mon fauteuil précédent. Bon, je me croise les doigts qu'avec un peu plus d'ampères dans mes nouvelles batteries, elles dureront davantage dans le temps. Le temps est justement un enjeu à ne pas négliger. Pour moi, qui est amputé aux deux bras et aux deux jambes, je monopolise aussi le temps de mon amoureux à chacun de mes rendez-vous. Régulièrement, il doit me conduire à l'Institut de réadaptation qui est à 135 km de la maison pour que puisse s'effectuer l'entretien et les réparations de tout mon attirail de prothèses. Chaque fois, on passe 3 heures là-bas avec les prothésistes. Faut dire que j'accumule volontairement les petits et grands problèmes à solutionner pour éviter de multiplier les journées consacrées à mon handicap. Car pendant que mon aidant m'accompagne, il ne peut pas travailler. Je ne le peux guère davantage. Au lieu de pouvoir avancer comme tout le monde et être deux à gagner sa croûte, on doit débourser pour le stationnement et l'essence. Néanmoins, je me sais chanceuse malgré tous les frais cachés de mon handicap. Je n'ai qu'à penser au programme d'adaptation domiciliaire qui, depuis novembre 2024, a été suspendu et dont les nouvelles inscriptions ne sont toujours pas acceptées à ce jour. L'accès au logement adapté est laborieux. Les heures de soins à domicile sont de plus en plus difficiles à se faire attribuer et il y a ceux et celles qui, pour recevoir des traitements, doivent faire de la route, malades et angoissés. C'était « Les frais cachés du handicap », un texte de Marisol Saint-Onge, paru le 21 septembre 2025 dans La Voix de l'Est.
Un appareil utilisé pour localiser des enfants autistes interdit dans plusieurs écoles. Un texte de Charles-Étienne Drouin, paru le 14 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Plusieurs administrations scolaires sont réticentes à autoriser l'appareil de géolocalisation AngelSense en raison des risques qu'il pose pour la confidentialité dans les écoles. Des familles canadiennes indiquent se faire refuser l'usage d'AngelSense en classe pour leurs enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, puisque le dispositif a la capacité d'écouter, à distance, des conversations privées. Karine Robichaud s'inquiète pour la sécurité de son fils de 9 ans qui fréquente une école de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Le jeune Anthony, qui a été diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA, a tendance à prendre la fuite autant à l'école qu'à la résidence familiale. Quand il y a quelque chose qui attire Anthony, que ce soit un drapeau chez le voisin, que ça soit une balle qui roule, Anthony n'a pas conscience du danger Puis il va y aller pour ça. C'est arrivé que ce soit sauvé de nous, ses parents. On m'a mentionné qu'à sa dernière année scolaire, il s'était enfui à 3 reprises, raconte Karine Robichaud. Dans ce contexte, la famille a équipé Anthony d'un AngelSense, un petit appareil spécialement conçu pour les enfants avec un TSA qui peut être déposé dans leur poche. Avec ce dispositif, je suis capable de savoir où il est en tout temps, explique Mme Robichaud. Mais selon la famille, le district scolaire francophone Nord-Est, DSFNE, aurait refusé la présence de l'appareil en classe puisqu'il permet d'écouter à distance des conversations privées. Le problème est qu'avec la fonction d'appel, je suis capable d'entendre l'environnement d'Anthony. D'après l'école, c'est une violation de la confidentialité, affirme Mme Robichaud. Elle juge que cette machine est néanmoins essentielle pour la sécurité de son fils. Elle s'est donc résolue à garder son enfant à la maison. J'ai eu beaucoup de peine. C'est difficile de savoir que tu ne peux pas avoir ton enfant en sécurité à 100%. Je dois garder Anthony à la maison et l'empêcher d'avoir l'éducation dont il a besoin. Des cas semblables en Ontario. Mme Robichaud n'est pas la seule à vivre ce genre de problématique. En Ontario, Megan Dolomont doit composer avec une situation semblable. Son fils, qui a également un TSA, aura bientôt 5 ans. En raison des tendances de l'enfant à fuir, Mme Dolomont a décidé de le doter d'un AngelSense à l'école. Depuis environ 6 mois, en vue de sa rentrée scolaire, qui aura lieu autour du 22 septembre, j'ai expliqué au conseil scolaire Upper Grant que mon fils allait à l'école avec l'appareil, explique-t-elle, précisant que la demande a été refusée. C'est frustrant pour moi, car les enfants utilisent d'autres appareils, que ce soit pour l'épilepsie ou le diabète. Ces appareils sont acceptés, mais pour ce handicap mental, il existe un appareil qui pourrait l'aider et le conseil scolaire n'est pas prêt à changer d'avis. Équilibre entre sécurité et confidentialité. Le psychologue et professeur associé à l'Université Laval, Égide Royer, est un expert en adaptation et en réussite scolaire. Selon M. Royer, les écoles canadiennes et américaines sont nombreuses à avoir un problème dans la fonctionnalité d'appel téléphonique d'AngelSense, même si l'appareil est doté d'un mode école. Il y a une modalité qui peut être contrôlée par l'école qui empêche la diffusion et la réception d'enregistrements sonores durant la période scolaire, tout en conservant la fonctionnalité pour connaître l'emplacement de l'enfant. Ça permet de respecter la vie privée des élèves et des autres personnes dans la classe, explique-t-il. Cette fonctionnalité n'a toutefois pas suffi à convaincre le DSFNE, se désole Karine Robichaud, qui affirme que l'école refuse quand même l'utilisation d'AngelSense par son fils. Les districts scolaires ont raison de se préoccuper de cette question. D'un autre côté, les parents ont raison de vouloir utiliser ces nouvelles technologies. Il faut voir avec les parents pour une forme de compromis, dit Égide Royer. L'expert propose aux parents d'utiliser d'autres formes de technologie pour observer la géolocalisation des enfants présentant un TSA. Les deux mamans, Karine Robichaud et Megan Dolomont, ne souhaitent pas utiliser d'autres outils, notamment le AirTag d'Apple. Elles considèrent qu'AngelSense est plus sécuritaire puisque le dispositif utilise le réseau cellulaire. La vie des milieux scolaires. Au Nouveau-Brunswick, le district scolaire francophone Nord-Est a refusé de commenter le cas de Karine Robichaud et de son fils Anthony, puisque la situation est maintenant entre les mains du ministère de l'Éducation. La province considère elle aussi que le dispositif AngelSense soulève d'importantes préoccupations en matière de vie privée, mais précise que les appareils permettant la géolocalisation soient permis dans certaines situations. L'appareil AngelSense permet aux parents d'écouter des conversations sans consentement. Cette fonctionnalité le distingue des autres outils, dit Diane Chavez, porte-parole du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Bien que les solutions comme les AirTags puissent poser des défis dans les écoles en raison de problèmes de connectivité, le ministère surveille les technologies disponibles et s'engage à trouver des solutions qui assurent un équilibre entre la sécurité et le respect de la vie privée, déclare par écrit une porte-parole du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Diane Chavez. Pour sa part, le district scolaire francophone Sud a indiqué qu'il analyserait chaque cas précis. Si une telle demande devait être faite par une famille, elle serait analysée au cas par cas en collaboration avec la direction de l'école et les parents afin de trouver le meilleur équilibre entre la sécurité de l'élève et le respect de la confidentialité et de la vie privée dans l'environnement scolaire, a indiqué dans un courriel le porte-parole du district scolaire francophone Sud, Jean-Luc Thériault. Du côté du conseil scolaire Upper Grant en Ontario, on considère aussi que les appareils permettant d'écouter les élèves à distance présentent des risques pour la vie privée et c'est la raison pour laquelle ils sont interdits. Plusieurs mesures sont en place pour protéger les enfants présentant des risques de fuite, a indiqué une porte-parole dans un courriel. Parmi les stratégies, du personnel supplémentaire est en place pour surveiller les élèves, des cloches ont été installées afin que les employés soient avertis lorsqu'une porte est ouverte et on tente de comprendre ce qui peut inciter un enfant à prendre la fuite afin de développer des alternatives pour éviter ce genre de scénario. Ellipse, a indiqué dans un courriel Heather Loney. L'espoir ontarien d'utiliser Angel Sense. Une autre maman de l'Ontario, Crystal Creedy-Good, raconte avoir travaillé pendant 6 mois à convaincre le conseil scolaire Limestone de permettre l'utilisation d'Angel Sense par son enfant autiste. « J'aimerais beaucoup qu'il soit approuvé à l'échelle du pays, ou du moins en Ontario », dit-elle. Les élèves peuvent porter des appareils Angel Sense uniquement pour la fonction de localisation. Toutes les communications bidirectionnelles sont désactivées. Une décharge est fournie à cet effet, déclare par écrit une porte-parole du conseil scolaire Limestone, Maddie Crothers. Pour Karine Robichaud au Nouveau-Brunswick, l'espoir demeure de pouvoir éventuellement scolariser Anthony avec ce dispositif. Je veux juste être capable d'aider mon enfant à aller à l'école en sécurité. Je veux aussi d'autres enfants qui pourraient avoir besoin d'un Angel Sense, mais qui n'ont pas une voix pour parler pour eux autres, conclut-elle. C'était un appareil utilisé pour localiser des enfants autistes interdits dans plusieurs écoles, un texte de Charles-Étienne Drouin, paru le 14 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Des effets significatifs chez les aînés du projet Vieillir chez soi, un texte de Charles Ferron, paru le 16 septembre 2025 sur le site de La Voix de l'Est. Les succès du projet pilote Vieillir chez soi à la résidence privée pour aînés RPA Jardin de Magog ont convaincu le CIUS de l'Estrie, CHU, de le pérenniser. Ce partenariat permet notamment de retarder le déménagement des aînés en CHSLD. Le projet pilote, qui s'est déroulé au cours des 3 dernières années, a grandement contribué au bien-être des 111 résidents touchés, estime le coordonnateur à la direction du soutien à domicile pour le CIUS de l'Estrie, CHU, Steve Pelletier. Le projet se voulait un moyen de permettre aux usagers qui choisissent de venir vivre dans une RPA de pouvoir y demeurer jusqu'à la fin, d'éviter les déménagements en assurant un soutien financier et en s'assurant aussi que tous les services soient bien adaptés à leurs besoins qui sont évolutifs au fil de l'évolution de leur maladie cognitive. Ce qu'il y avait auparavant, c'était que le coût payé par l'usager était variable en fonction de son panier de services, précise M. Pelletier. Dans le projet actuel, il y a une prévisibilité. L'usager qui vient signer un bail sait combien ça va lui coûter, même quand son proche ou la personne elle-même va avoir des besoins équivalents à un CHSLD, par exemple. L'autre différence, c'est l'augmentation des services. Quand on a déployé le projet, les propriétaires ici ont mis en place une structure de soins infirmiers pour répondre aux besoins de ces usagers, En plus de contribuer financièrement au projet, le CIUS de l'Estrie CHU le coordonne en fournissant des services à la hauteur des besoins des usagers. Des services professionnels comme des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des inhalothérapeutes, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux sont aussi offerts. Au début, quand ils ont moins besoin de services, ils vont payer moins cher. Ça va quand même évoluer un petit peu. Il y a une petite augmentation, mais à un moment donné, ça plafonne autour d'un coût similaire à ce que ça coûte en CHSLD. Steve Pelletier, coordonnateur du CIUS de l'Estrie, CHU. Tous les usagers qu'il y a ici qui ont un profil CHSLD, ces usagers ne sont pas dans notre système, n'occupent pas des places en CHSLD, ne sont pas sur des listes d'attente pour le CHSLD. Donc, ça nous évite de prendre des places, de devoir bâtir de nouvelles places, souligne M. Pelletier. Chez Jardin de Magog, on partage l'enthousiasme du CIUS de l'Estrie CHU sur les premiers résultats du projet. Les résidents adorent ça, indique la copropriétaire Marie-Josée Hens. Ils sont plus épanouis. Les familles aussi. Les proches aidants. Ils sont plus en sécurité et ils savent que les gens peuvent rester jusqu'à la fin. C'est très rassurant pour tout le monde. Nous, on a entre 35 et 40 résidents en moyenne qui, si le projet se terminait, devraient quitter la résidence pour aller en CHSLD ou en maison des aînés. Les maisons des aînés accueillent environ 35 à 40 résidents, rappelle Mme Hens. Si le projet cessait, ça prendrait une maison des aînés complète pour pouvoir transférer les résidents. L'impact est très important. Selon la copropriétaire, les résidents paient environ 2 000 $. Les familles payent le gîte et la nourriture, et ensuite de ça, le centre de santé paye plus au niveau des soins. C'est un montant qui varie selon le niveau d'assistance des gens. Impact immédiat. Pendant tout le projet pilote, une équipe de recherche, incluant Sarah Rahimali et Mireille Gagnon-Roy, a observé les changements de méthode pour les résidents. La personnalisation des services a, entre autres, eu beaucoup de succès. On a réussi à avoir la participation des proches pour donner de l'information sur l'histoire de vie des résidents, explique Mme Rahimali. Après ça, cette information est reprise par le personnel et elle est intégrée aux soins quotidiens. En connaissant mieux les résidents, les interventions devenaient ainsi plus faciles. On avait des questionnaires qui étaient adaptés à leurs capacités, s'asseoir avec eux, jaser de leur vie. Ce qui en ressortait, c'était que la majorité des gens étaient heureux. Ils aimaient le fait qu'ils pouvaient rester, mentionne pour sa part Mme Gagnon-Roy. Puisqu'il y avait une meilleure continuité des soins, notamment au niveau des soins infirmiers qui étaient offerts à la résidence, on voit qu'il y a une diminution du nombre de visites à l'urgence. C'était assez significatif. On parle d'une soixantaine de visites à l'urgence de moins. Note également Mme Gagnon-Roy. Ça sous-entend que les problématiques mineures de soins étaient répondues au sein de la résidence. Lorsqu'une hospitalisation était nécessaire, la durée a diminué d'environ la moitié. Avec les ajustements effectués sous l'initiative « Vieillir chez soi », la RPA était dorénavant en mesure de maintenir, en plus grande proportion, des aînés à la résidence. En temps normal, ceux-ci se seraient retrouvés en CHSLD plus rapidement. Même si, dans certains cas, la relocalisation est inévitable, Ça demeure que c'est une seule transition au lieu d'avoir plusieurs déménagements dans diverses résidences. Mireille Gagnon-Roy, équipe de recherche. Pour la proche aidante, Annie Gagnon, dont le père est en résidence depuis un an, l'impact est déjà ressenti. Pour moi, c'est une tranquillité d'esprit. Mon père, avant, pouvait m'appeler 7 fois par jour. Là, il ne m'appelle plus. Pas que je ne veux pas qu'il m'appelle. Mais il m'appelait parce qu'il était en détresse. Aujourd'hui, quand je le vois, il est de bonne humeur. Où il était avant, c'était plus autonome, alors qu'ici, il y a différents degrés de troubles cognitifs. Il s'est senti accepté. Il dit « Ici, je suis bien, parce qu'on a le droit d'être différent ». Madame Gagnon croit qu'il faudrait mettre en place un projet similaire dans toutes les résidences. Pour l'instant, aucune autre initiative du genre n'est en préparation, mais le CIUS de l'Estrie, CHU, ne ferme pas la porte, affirme M. Pelletier. Un modèle similaire avait déjà été mis en place à la RPA Grace Village à Sherbrooke. C'était des effets significatifs chez les aînés du projet Vieillir chez soi, un texte de Charles Ferron, paru le 16 septembre 2025 sur le site de La Voix de l'Est.
La psychose de l'IA, ses conversations avec ChatGPT le mènent à l'hôpital. Un texte de la rédaction paru le 17 septembre 2025 sur le site de RCI. Le créateur d'application Anthony Tan veut mettre les Canadiens en garde contre les risques de psychose liés à l'intelligence artificielle, IA. Le Torontois a dû être hospitalisé après que son état mental soit devenu psychotique l'hiver dernier, à la suite de mois de conversation avec ChatGPT, dit-il. Il sautait des repas et dormait à peine, se demandant si les personnes qu'il croisait sur le campus de son université étaient réelles. Le développeur informatique écrivait à des amis qu'il était persuadé d'être surveillé par des milliardaires. Lorsque certains d'entre eux l'ont contacté, il a bloqué leurs appels et leurs numéros, pensant qu'ils s'étaient retournés contre lui. Le jeune homme de 26 ans a fini par passer 3 semaines dans l'aile psychiatrique d'un hôpital. Citation. Ça s'est immiscé insidieusement dans mon ego et j'en suis venu à penser que la conversation que j'avais avec l'IA aurait une importance historique. Fin de citation. Son locataire l'a finalement convaincu de se rendre à l'hôpital en décembre dernier. Il avait passé auparavant plusieurs jours sans fermer l'œil. Pas un cas unique. Des cas de possibles troubles mentaux liés aux robots conversationnels ont fait les manchettes au cours des derniers mois. En Californie, des parents poursuivent OpenAI, le créateur de ChatGPT, à la suite du suicide de leur fils. Mustapha Suleiman, responsable de l'IA chez Microsoft, a fait part de ses inquiétudes en août dernier. Citation. Les signalements de délire, de psychose liés à l'IA et d'attachement malsain ne cessent d'augmenter. Et aussi difficile que cela puisse paraître, ce phénomène ne se limite pas aux personnes déjà exposées à des problèmes de santé mentale. Fin de citation, a-t-il écrit. Le Dr Mahesh Menon, psychologue au sein du programme de psychose du réseau Coastal Health à Vancouver, en Colombie-Britannique, affirme que des facteurs comme l'isolement, la consommation de substances, le stress et le manque de sommeil peuvent favoriser le délire psychotique. Citation. Pendant cette période prodromale, la personne peut ressentir des changements d'humeur et de comportement. Fin de citation, précise-t-il. L'individu peut avoir l'impression que le monde change autour de lui. Citation. Cela peut donner aux gens le sentiment d'être observés ou d'être un centre d'attention, ajoute-t-il. Ils sont alors susceptibles de chercher des explications à ces expériences. Nombre d'entre eux se tournent vers Internet. Fin de citation. La situation pourrait certainement s'exacerber, dit-il, lorsqu'on parle simplement à un robot d'IA, parce que ce dernier ne va pas contredire ce que l'on suggère, explique le docteur Menon. l'IA un des facteurs? La psychose liée à l'IA n'est pas un diagnostic officiel et il n'existe aucune preuve clinique évaluée par des pairs montrant que l'utilisation de l'IA à elle seule peut mener à une psychose. M. Tan reconnaît avoir été stressé au moment de sa crise psychotique. Il avait un examen qui approchait, il était amoureux de quelqu'un et avait recours à des produits comestibles au cannabis pour l'aider à dormir. Il avait également fait une dépression liée au stress en 2023 qui avait nécessité une hospitalisation, mais qui était « beaucoup moins grave », dit-il, et n'avait donné lieu à aucun diagnostic ni traitement. Il ne pense pas qu'il aurait sombré dans une crise psychotique l'an dernier sans les conversations avec l'IA. Citation « C'est toujours disponible et c'est tellement captivant. La façon dont il vous parle vous valorise et vous fait du bien. » Fin de citation, raconte-t-il. La compagnie OpenAI a soutenu en août dernier qu'elle travaillait à des améliorations dans plusieurs domaines, y compris la dépendance émotionnelle et les urgences de santé mentale. L'entreprise affirme également que son dernier modèle, GPT-5, répond à certaines de ses préoccupations. Un groupe d'aide Québec-Ontario. Le Québécois Étienne Brisson et l'Ontarien Alan Brooks ont lancé le groupe en ligne Human Line Project pour venir en aide aux victimes de la psychose de l'IA, disent-ils. Le portail vise à affronter la honte et l'isolement qui peuvent être liés à une telle situation, indique M. Brooks. Plus de 125 personnes ont communiqué avec le groupe jusqu'à maintenant. M. Brisson n'est pas contre l'IA, mais il s'inquiète de ses effets possiblement imprévisibles. Citation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture qui roule à 200 000 à l'heure, mais il n'y a pas de ceinture de sécurité, pas de cours de conduite, pas de limite de vitesse. Fin de citation, dit-il. De son côté, M. Tan a terminé une maîtrise en culture de la consommation à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, en août dernier. Sa thèse portait sur l'attachement des individus à l'IA. Il participe maintenant à un projet de recherche sur l'IA et la santé mentale. Dans sa vie personnelle, il essaie maintenant de prioriser les relations humaines. Citation « J'accorde la priorité aux personnes parce que j'ai compris à quel point elles sont importantes. » Fin de citation, dit-il. C'était « La psychose de l'IA, ses conversations avec ChatGPT le mènent à l'hôpital ». Un texte de la rédaction paru le 17 septembre 2025 sur le site de RCI.